Ce matin, tournez dans le psaume 32. J'avais entrepris la semaine dernière, lors de la convention en Gaspésie, de parler du pardon. Et c'est pour moi, c'est plus qu'un message, c'est comme une série que j'amorce. Donc, je vais prendre quelques éléments de la semaine passée, sans reprendre le message de la semaine passée pour autant. Parce que c'est un message, c'est un sujet qui me semble peut-être souvent négligé dans nos milieux évangéliques. C'est-à-dire qu'il y a un angle qui est négligé sur la question du pardon, c'est qu'on parle beaucoup du pardon en fonction du pardon qu'on devrait accorder aux gens qui nous ont offensés. Hein. On est dans cette dynamique-là, on devrait pardonner aux gens, puis on se dit, si Christ nous a pardonné, on doit pardonner, puis il y a souvent une pression qui est mise sur les gens, comme si c'était facile, c'était simple, c'était automatique, et qu'on ne devrait pas ressentir la douleur de nos blessures, du fait que Christ est mort pour nous. Donc, de ce fait-là, il y a comme un effet magique qui fait que ça devient ultra facile de pardonner les gens. Et quand on fait de la cure d'âme pastorale, on le sait que c'est vrai, mais c'est pas nécessairement simple pour autant. Il y a une différence énorme entre une blessure du genre « quelqu'un vous a pas dit bonjour », tu sais. Ça peut être aussi simple que ça. On ne vous a pas salué ou remercié pour un service rendu. Puis c'est vrai que ça peut être troublant pour certaines personnes. Quand on fait quelque chose, on peut avoir besoin d'avoir un feedback, une reconnaissance. C'est juste une question de politesse. Moi, mes parents m'ont appris à dire merci aux gens. T'sais. Et pas se faire dire merci, ça peut être à la limite blessant, mais ça, c'est une chose. De l'autre côté, mais au bout de ce spectre-là, c'est une autre affaire d'avoir été abusé sexuellement dans sa jeunesse ou quelque chose comme ça, qui là, on s'entend qu'on est toujours dans le même angle, faudrait pardonner, mais c'est un petit peu plus facile d'oublier de pardonner quelqu'un qui vous a pas dit bonjour que pardonner un abuseur sexuel ou une forme d'abus extrêmement grave. Donc, c'est tout ça que dans les pastorales, dans les églises, on essaie d'aider. Donc, il y a des nuances, il y a des blessures qui sont évidentes. C'est noir ou blanc, c'est facile à identifier. Donc, comme je vous dis, je vous donne deux exemples qui sont simples à comprendre. Or, la complication, c'est tout ce qu'il y a entre les deux, qui là n'est pas tout à fait noir ni blanc. Et ce matin, en m'en venant, j'étais avec ma femme dans l'auto, puis je tenais l'exemple, juste pour vous montrer à quel point on est facilement blessable et on est facilement des blesseurs aussi. Et tout ça, c'est plus ou moins toujours conscient. Par exemple, vous pourriez être blessé par des gens qui vous ont justement rien dit ni rien fait. L'exemple le plus fascinant, c'est l'anniversaire de quelqu'un dans votre entourage. Il s'organise quelque chose et on ne vous a pas invité. Et vous vous dites, il me semble que ça aurait été ma place, moi, avec eux autres. Pourquoi moi, je n'ai pas été invité? Là, vous pouvez rentrer dans l'état de nuance qui fait le pourquoi, du comment. Il y a des gens, leur réaction à ça, ça va être de dire, il y avait peut-être juste trop de monde, puis ils ont choisi, puis bon, ça arrive. Puis, tu sais, il y a du monde qui banalise facilement sans trop se compliquer la vie. Donc, il peut y avoir des raisons tout à fait justes pour lesquelles on ne m'a pas invité. mais il y a des gens qui vont prendre ça beaucoup plus personnel. Ça va vraiment chercher une douleur, ça va chercher une zone de rejet, ça va chercher quelque chose, là. Et pourtant, cette blessure-là qu'on reçoit n'est pas due à quelque chose qui est arrivé, mais à quelque chose qui est comme pas arrivé. C'est qu'on ne m'a pas invité, on ne m'a rien dit. Donc, même dans le silence, dans le rien, il peut arriver quelque chose. Évidemment, c'est pas rien en même temps. C'est se sentir trahi, oublié, c'est sentir toutes sortes d'émotions comme ça qui sont relevées. Et ces douleurs-là sont complexes parce qu'on ne peut pas beaucoup les exprimer. T'sais, si on est blessé par ce genre de situation-là, on réagit comment? Tu ne peux pas appeler la police, là. Tu ne peux pas faire grand-chose. Tu peux comme pas vraiment dire, parce que ça se dit pas. Hein? Tu dis « Ah, tu m'as pas invité, je t'aime plus. » Bon, quand on est enfant, on se dit des affaires de même, mais à l'âge adulte, il y a comme une certaine noblesse qui fait qu'on ne le dira pas, ça ne s'exprime pas, mais on va vivre ça comment? On va vivre ça pareil. Donc, certains vont s'isoler. Comment on arrive, on peut être tordu, là, comment faire sentir aux gens qu'on est mécontent sans leur dire le comment du pourquoi on est mécontent. Donc, on va les éviter, on leur parle pas. Tu sais, là, on devient un petit peu absent de leur vie. T'sais, on veut qu'ils sentent quelque chose. De manipulation, ça s'appelle ça. Et souvent, l'absence parle plus fort que la présence. Hein? Il y a rien comme un party de Noël où un frère et une sœur de la famille ne viennent pas. Il n'est pas là. Bon, il peut ne pas être là parce qu'il est ailleurs dans le monde, c'est une bonne raison, mais là, il n'est juste pas venu. Tu sais, une absence parle plus fort qu'une présence. Vous comprenez? Donc, nos relations humaines sont compliquées de tous ces rapports-là qui fait que on se blesse et on blesse aussi. Des fois, on le sait. Des fois, on s'en est juste pas rendu compte. Et tout ça, c'est dû au fait qu'on voit pas clair. On est aveugle. On est dans un monde aveugle. On est dans une condition pécheresse. Et tout ça est jamais tout à fait clair. Donc, c'est compliqué, les relations. Donc, quand on parle d'un sujet comme celui-là, le pardon, on rentre dans un sujet que je trouve très vaste, très complexe, complexe dans sa théologie, puisque l'Écriture en parle quand même énormément de ce sujet-là, mais complexe à cause du fait que ça va tous nous chercher quelque part. Ça nous implique tous, ce genre de sujet-là. On a tous été un jour ou bien victime ou bien agresseur. Et j'aime l'idée que il y a au moins proportionnellement et logiquement autant de victimes que d'agresseurs. Parce que pour chaque agresseur, pour chaque agression, il y a forcément un agresseur tout le temps. Mais on est dans une dynamique, dans ce troisième millénaire, à forcer souvent le pardon qu'on doit aux autres. On devrait pardonner. Un bon chrétien, ça pardonne. C'est ce qu'on se dit. Puis c'est vrai. Mais il y a beaucoup de nuances à mettre autour de ça. Ce dont on parle moins, et ça va être l'objet du sujet que je vous amène, c'est moins le pardon qu'on doit aux autres que le pardon qu'on devrait demander aux gens. Ça, on en parle moins. Parce que c'est plus facile de voir le problème chez les autres que de voir ses propres problèmes à soi. C'est pourquoi le titre du message s'intitule « Tant que je me suis tu », mes os se consumaient. Psaume 32, verset 1, Cantique de David, « Heureux celui... » J'attire votre attention sur l'usage du mot « heureux » ici. « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux encore l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Je veux juste faire un commentaire. Après ça, je vais quand même lire le reste. Deux fois, il y a l'usage du mot « heureux » avec le concept du pardon. Mais ici, vous voyez que ce n'est pas le pardon dans la victimisation, c'est le pardon dans l'agression. Ici, on parle de « heureux celui qui est l'agresseur ». À qui l'Éternel n'impute pas cette iniquité? Vous voyez, c'est « heureux l'homme à qui l'Éternel, à qui la transgression est remise » au verset 1. Donc, heureux celui qui a transgressé, qui a agressé. Il est possible pour lui. C'est juste pour vous dire qu'on n'est pas juste heureux si des gens viennent nous demander pardon. Ça fait du bien. Hein? Quand quelqu'un vient reconnaître sa faute, nous demande pardon, c'est béni. Mais l'Écriture dit également qu'il est heureux d'aller demander pardon, que ce soit à Dieu ou que ce soit aux gens. C'est un élément positif, heureux et restaurateur. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Pardon. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. C'est un magnifique psaume. Verset 6, un autre point intéressant. Quand David, ici, mentionne qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront point. Il est en train de mettre une solution ou une promesse à la question du pardon, c'est-à-dire de la reconnaissance de notre faute. En disant qu'il a reconnu, qu'il a admis ses fautes à l'Éternel, il va dire « c'est ainsi qu'un homme pieux devrait se conduire ». C'est un peu ce que ça veut dire. Et s'il se conduit de cette façon-là, même les grandes eaux ne l'atteindront pas. Et justement, vendredi, j'étais chez Noémie et Arnaud. Et je me permets de citer, mais si c'est tout croche, je te demande pardon tout de suite. C'est qu'on discutait de tout ce qui peut nous arriver ou comment ces problèmes-là, le manque d'humilité qu'on aurait qui fait qu'on ne va jamais réparer nos erreurs, on ne va jamais demander pardon aux gens, tout ça, on le garde en soi par orgueil, par justice propre, par fausse honneur. Tout ça, on le garde en dedans. Et qu'est-ce que ça finit par faire dans nos vies? Ça finit par nous rendre malades. C'est un peu ce que David essaie de dire. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et c'était comme la sécheresse de l'été. C'est comme si David faisait déjà au 9e siècle avant Jésus-Christ un lien entre ce genre de situation spirituelle et morale, toute la question du pardon, ce qu'on ne s'avoue pas, les vérités qu'on ne se dit pas, l'humilité qu'on n'a pas d'aller reconnaître nos fautes, d'aller se réconcilier, et les maladies de tous ordres qui peuvent s'évacuer. C'est un petit peu ce que Noémie me disait, c'est comme si ça s'évacue par notre corps de toutes sortes de manières. C'est un peu ça, c'est-tu juste, oui. Donc, c'est fantastique, hein? On parle de phénomène psychosomatique pratiquement ici. Donc, j'aimerais parler, qu'on puisse prendre le temps de voir c'est quoi les bienfaits de demander pardon, parce que finalement, si tout ça est vrai, et je crois que c'est vrai, ça veut dire qu'il y a un bonheur, puis une délivrance, puis une restauration. C'est joyeux. Le résultat, c'est peut-être pas joyeux aller demander pardon à quelqu'un. En tout cas, à première vue, c'est douloureux. Mais ce qu'on en retire est heureux et bon pour notre santé. Donc, je fais un petit retour sur 2-3 idées de la semaine dernière. Lorsqu'il est question de pardon, c'est souvent en rapport avec la nécessité de pardonner les autres ou de pardonner aux autres leurs offenses envers nous. et rarement de demander nous-mêmes pardon à ceux qui nous ont, à ceux que nous avons offensés. Bon, on est aujourd'hui dans cette dimension-là. Donc, on dit aux gens, vous devez pardonner les autres qui vous ont offensés. On met une pression. Un bon chrétien, ça fait ça. Mais on va beaucoup moins dans la zone de, tu devrais aller demander pardon aux gens. Premier point. Deuxième point, nous devrions être beaucoup plus sensibles aux offenses que nous faisons subir aux autres qu'aux offenses que nous subissons de la part des autres. Je ne suis pas en train de vouloir minimiser les offenses qui ont été faites contre nous. Mais le problème avec celle-là, c'est qu'on ne contrôle pas la volonté de l'autre de vouloir reconnaître sa faute. On ne contrôle pas ce que les autres pourraient devoir ou avoir le devoir de venir nous dire. Mais on contrôle ce que nous, on devrait dire aux gens. Quand nous, on a offensé quelqu'un, ça, on peut le faire. Et, attention, il y a des pièges ici, dont un qui est celui qui veut que je vais attendre que Dieu le produise en moi, ce vouloir et le faire. Dieu produit en nous le vouloir et le faire, mais il faut relire l'Écriture pour se rendre compte que Jésus donne des ordres là-dessus. Il a déjà parlé. Il dit, « Va vers ton frère. Vas-y. » Ce que j'essaie de dire ici, c'est que dire que j'attends que l'Esprit Saint produise en moi la volonté d'y aller, ça pourrait être un faux fuyant. Une façon de dire, je me cache derrière cette dimension que c'est Dieu qui va me donner. Je peux comprendre qu'on puisse penser ça, mais attention que ce ne soit pas juste une demeure pour ne pas bouger. C'est-à-dire, ah, le Seigneur ne me l'a toujours pas montré. Vous voyez? Ou il ne l'a pas produit en moi, fait que je n'irai pas. Le Seigneur n'a pas tout à fait besoin de le produire en moi. Il a déjà demandé d'aller nous réconcilier. Il l'a dit. Parole de Dieu. Et jamais, quand il le dit, il ne dit jamais... Quand il faut que tu demandes pardon à ton frère, attends que je crée en toi la capacité, vas-y pas avant. Vous ne trouverez jamais cette déclaration dans l'Écriture. Autre point, c'est un autre faux fuyant. Tu sais, des fois, on va dire ça à des gens, écoute, si je t'ai fait quelque chose de mal, pardonne-moi. C'est pas pire quand même. Mais c'est un autre faux fuyant parce que ça veut aussi dire « Je pense pas t'avoir rien fait de mal, mais toi, tu as l'air à le penser, donc je vais aller te voir pour te demander pardon. » C'est du non-dit, ça. Et ça restaure pas grand-chose. Parce que c'est comme si on se ramenait au niveau du pécheur normal. Vous savez, on est tous, même les gens du monde vont dire, il n'y a personne de parfait, on est tous un peu, bon, tout le monde universellement reconnaît qu'on est tous un peu tarés de la gang. Là. Fait qu'on n'a pas de problème à se tenir dans la zone des tarés. Hein, tarés veut dire, c'est un autre mot, tarés. De trouver des mots polis, là, tarés. Fêlés, merci. Alors, donc, on sait qu'on est fêlés, que les autres sont fêlés, fait que c'est facile de dire, gars, je suis un fêlé, peut-être que oui, dans ma fêlure. Mais ça produit pas grand-chose, parce que ce qui restaure les gens quand on leur demande pardon, c'est quand on nomme la chose. Donc, c'est pas si je t'ai fait quelque chose, c'est d'avouer la chose. Et faire ça, c'est aller un couple de degrés en bas de la fêlure. C'est-à-dire, je suis pas seulement fêlé, je suis aussi, j'ai été méchant, là. J'ai été fait ceci, et c'est pour ceci que je te demande pardon. Ça, c'est tough. Parce que c'est montrer qu'on n'est pas simplement dans la vulnérabilité de la nature humaine rendue pécheresse par la chute, qui est vrai pour tout le monde. Là, on est en train de dire, non seulement je suis pris de ça, mais ça peut me rendre débile. Et là, je suis obligé de le montrer, de le dire, de l'avouer, de le nommer. Autre point, le pire ennemi de ma justice propre, c'est la culpabilité réelle des autres. Donc, c'est une façon de dire, mon plus gros problème dans mes relations humaines, quand j'ai un conflit avec quelqu'un, mon plus gros problème, c'est ses péchés à elle. C'est-à-dire que si je connais l'entièreté de sa personnalité, de sa folie, de ses fêlures et de ses péchés, son dossier peut être suffisamment garni pour que je me dise, ben c'est pas moi qui ai un problème, c'est trop évident que c'est elle. Donc, ça peut m'exclure de me sentir obligé d'aller lui demander pardon. Je vous donne un exemple. On se connaît. On connaît notre histoire, surtout si on se connaît depuis très, très, très longtemps. On sait des choses, hein? On sait des choses sur les autres. Et puis, on connaît le dossier au complet. Et tout à coup, arrive un conflit avec la personne et on s'appuie sur ce qu'on sait de son dossier pour ne pas être obligé d'aller réparer la faute. Et c'est une erreur faire ça. C'est une grave erreur, d'ailleurs. Et sur le plan éthique, c'est grave parce que c'est donc que je me donne la permission de pouvoir recommencer si je ne répare pas. Au nom de ce que la personne est comme ceci, comme cela, elle passe ici, elle passe ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Si. Donc, je publie ses fautes qui deviennent le paravent derrière lequel je cache les miennes face à elle. Vous savez que même dans le monde juridique, je crois que lorsque vous êtes arrêté pour un crime quelconque, le juge est peut-être au courant du dossier criminel que vous aviez avant, mais il ne vous déclarera pas coupable sur sa connaissance de votre dossier criminel au complet. Il doit vous reconnaître coupable ou innocent que sur les faits et la cause qui est amenée en cours. Ce n'est pas parce que vous étiez coupable d'un tas de choses avant que vous êtes forcément coupable maintenant. Vous êtes peut-être innocent de ce crime-là aussi. Donc, dans notre rapport avec les gens, on doit traiter un point unique et demander pardon pour une chose nommée. Très important. Donc, nous ne demandons pas pardon aux gens que nous avons blessés parce que notre raison nous donne raison de les voir coupables de toute manière. C'est ce qu'on ne doit pas faire. Dernier point là-dessus. Cette personne ne mérite pas, c'est ce qu'on peut se dire, que je m'abaisse à lui demander pardon, car ce serait lui avouer que je suis plus faible qu'elle. Cela, c'est me montrer vraiment trop vulnérable. Donc, c'est un peu ça. Si la personne a un gros dossier, gros de même, rempli de fautes, tu dis, OK, si moi je dois aller lui demander pardon, comment je me sens? Je me sens comme... T'as un gros dossier, mais je pense que je suis pire que toi, là. Parce que je te demande, moi, pardon de quelque chose que je t'ai fait. Très dur, très humiliant. Et c'est ouvrir la porte à notre vulnérabilité et c'est la chose qu'on ne veut pas vivre. C'est bien ça. Mais le psaume 32, au fond, ce qui nous ouvre comme porte, comme instruction, c'est « Mais c'est pas bon d'agir comme ça parce que tu t'aides pas. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Tant que j'ai pas voulu avouer ma transgression, bien, je reste esclave de ses effets dévastateurs en dedans. » Voilà ce qui arrive. Donc, vendredi, j'étais à la faculté de théologie. Le docteur Djabala était là. C'est vraiment intéressant de poser des questions à Dr. Djabala. C'est un monsieur vraiment génial, hein, franchement. Là. Et puis, j'ai posé la question suivante. Je lui dis, « Hey, j'amène une série sur le pardon. J'ai une question pour vous, Dr. Djabala. Est-ce qu'il est juste de dire que c'est normal de ne pas pouvoir pardonner facilement si quelqu'un ne reconnaît pas la faute? » Parce que l'Écriture nous dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, moi, le Seigneur, je ne vous pardonne pas non plus les vôtres. Donc, ici, il y a quelque chose, là, tu dis, OK, puis même dans le Notre Père, c'est répété, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans Colossiens, chapitre 3, il dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement. Donc, l'Écriture met ces dimensions-là ensemble. Donc, on se dit, OK, un bon chrétien, ça va forcément toujours pardonner les gens qui les a offensés. Sauf que quand on fait de la cure d'âme, on comprend que c'est pas si simple. Et on comprend que l'Écriture sous-entend quand même assez clairement qu'on pardonne quand les gens reconnaissent leur faute. Peut-on pardonner lorsque la personne ne reconnaît pas sa faute? Oui, il y a l'œuvre de Dieu dans nos vies qui peut nous amener, il y a le temps qui passe, qui peut faire que les blessures s'amenuisent, mais Dr. Jabala m'a répondu quelque chose de vraiment intéressant. Voulez-vous savoir? Non? Ben, vous le dire. Quand je lui ai posé la question, son regard s'est illuminé. Vraiment, c'est Dieu. Puis il me regarde, il dit, mais le pardon. Il dit, c'est une transaction. Une transaction. C'est une transaction. Dit, oui, il dit, c'est une transaction. C'est un échange. Je lui ai dit, expliquez-moi ça. C'est une transaction par laquelle je récupère un bien perdu à cause de mon offense. Quand je demande pardon à quelqu'un, c'est une transaction. Je récupère quelque chose que j'ai perdu en l'offensant. Donc, ma demande de pardon me permet, c'est une transaction qui me permet de récupérer la relation avec la personne et de retrouver des choses avec cette personne-là. Et quand je me mets à lire des ouvrages sur le pardon, la plupart des théologiens parlent du problème du péché comme une dette. On s'endette lorsqu'on pèche et contre Dieu ou contre quelqu'un ou contre les deux. On s'endette. C'est fascinant comme élément à réfléchir. Demander pardon, c'est une transaction par laquelle je rachète ce que ma faute m'a fait perdre avec l'autre. Je récupère la relation, la paix et la joie. Et c'est exactement ce que David nous disait. Heureux l'homme à qui la transgression est remise. Heureux. On récupère un bien précieux. Mais là, si c'est intéressant de se dire que c'est une transaction qui nous permet de récupérer une relation, bien, ça veut donc dire que si on se refuse à faire la transaction, bien, on reste avec ce qu'on a perdu. C'est-à-dire, on reste perdant de ce qu'on a perdu. Et c'est important, c'est grave. Demander sincèrement pardon à celui ou à celle que j'ai offensé en nommant la chose qui est l'objet de ma faute, c'est de donner à l'offensé le moyen de me pardonner. Je répète, demander sincèrement pardon à celui ou celle que j'ai offensé en nommant la chose. Là, on n'est pas dans la généralité, je t'ai peut-être fait quelque chose, je ne sais pas quoi, mais en nommant la chose qui est l'objet de ma faute, c'est de donner à l'offensé le moyen réel de me pardonner. Au fond, si je veux délier quelqu'un de son besoin de me pardonner, je devrais lui demander pardon. Je facilite. C'est facile de pardonner quelqu'un qui nous a offensé si la personne sincèrement reconnaît cette faute. Ça, c'est miraculeux ce que ça fait. Vraiment. Mais vraiment. Le refus de reconnaître nos fautes affecte 3 personnes, toujours. Ça affecte Dieu, l'autre et moi. Ça affecte Dieu dans la manière suivante, c'est que Dieu est l'auteur de la loi. C'est pas pour rien que David va dire « J'ai péché contre toi ». Tu sais, dans le psaume 51, c'est tout l'épisode de son adultère avec Bathsheba, vous savez, du câliné un enfant qui est mort, mais c'est aussi le crime de David, le deuxième crime de la séquence, c'est pas seulement un adultère, mais c'est d'avoir fait tuer Uri en l'envoyant auprès de Joas, en envoyant un ordre à Joas, en disant « Envoyez-les se battre sur la partie du champ de bataille où c'est certain qu'il va se faire tuer ». Fait que ça s'appelle un meurtre. Et David s'est tué. Il s'est renfermé, puis on le voit dans 2 Samuel, chapitre 12, 11-12, dans ce coin-là, quand Nathan, le prophète, va vers lui, en dans David, tu sais, il lui montre toute l'histoire de l'homme qui avait des brebis, puis qui est allé voler son voisin qui en avait juste une, puis tu sais, il est allé chercher la colère de David en disant, David a trouvé ça tellement injuste qu'un tel homme, tu sais, c'est comme... Et là, Nathan prend tout son courage. Imaginez le courage qu'il faut à un prophète pour aller s'adresser au roi, là, tu sais, puis lui dire, moi, je m'en vais voir le roi, je m'en vais lui dire son péché aujourd'hui. Et ça, ça défait notre concept du oint de l'Éternel, tu sais, parce qu'on a l'impression que si quelqu'un est en autorité, c'est un oint de l'Éternel, ils deviennent des gens inatteignables. On ne peut pas aller les voir leur dire, tu sais, c'est des autorités. Non. Même dans l'Ancien Testament, David, le oint de l'Éternel était approchable. Vraiment. Et Nathan lui a dit, David, tuez cet homme. Pas tuer dans le sens de tuer, mais tu es. Ouais. Gorgé. Quand je parle mal, je lave ça avec une petite gorgée d'eau. Et il me pardonne, merci, François. Tu te sens-tu mieux, là? Donc David, dans tout cet épisode-là, il a offensé Uri et sa famille. Tu sais, moi, je me dis, il y a des frères, un père, une mère. Tu sais, il y a plein de monde. Là. Tu sais, nous autres, on voit juste un gars, mais quand on se met dans la réalité biblique, on dit, c'est du vrai monde qui ont vécu une vraie affaire. Là. Puis Bathsheba, ben c'est son mari là, qui vient de se faire tuer. Là. Elle aimait son mari. Je sais pas si... le texte dit pas ces choses-là, mais on comprend que c'est du monde marié qui vivent quelque chose. C'est grave ce qu'a fait David. Et quand il va se présenter devant l'Éternel dans le psaume 51, il va dire, j'ai péché contre toi seul. Tu dis, oh, attention David, ta minute, t'en as écorché beaucoup là, dans ta folie. Là. Mais en fait, tout péché qu'on commet, même si c'est envers quelqu'un, c'est d'abord un outrage à Dieu. Parce que Dieu avait dit deux choses dans sa loi. Tu ne tueras point ce que David a fait et tu ne commettras point d'adultère ce que David a fait. C'est intéressant parce que nous, dans notre façon, nous, je dis nous, puis c'est peut-être pas vrai de tout le monde, là, on a l'impression que devant Dieu, tu sais, nos péchés, c'est pas si grave. Tu sais, Dieu est bon, on marchande ça assez vite. Tu sais, il y a une couple de milliers d'années d'expérience dans l'art de nous pardonner. Fait qu'il est tellement habitué à nous pardonner que on minimise nos actes comme si, bon, Dieu nous relève, c'est béni. On réalise pas notre misère. Et le psaume 51 est magnifique parce qu'il nous replonge. David se replonge dans sa folie, dans sa misère. Dans le psaume 32, même chose. Il vit pleinement l'effet, l'absinthe de sa folie. Devant Dieu d'abord. Donc, on offense d'abord Dieu gravement. On offense l'autre, évidemment. On offense trois personnes. On offense forcément quelqu'un avec qui on va devoir aller se réconcilier. Et ça, Jésus le traite énormément dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Et la troisième personne, c'est moi. Parce qu'en refusant de reconnaître ma faute pour ne pas montrer ma vulnérabilité, je me condamne moi-même à être malheureux. Donc, ne pas confesser ma faute et la cacher, c'est pas aller mieux, c'est aller de moins en moins bien. C'est pour ça que David, je reviens sur sa déclaration, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Et le mot « fraude » ici, c'est pas le mot « faute », c'est le mot « fraude ». C'est le mot, on pourrait dire, « tromperie ». C'est-à-dire, heureux celui qui a décidé de franchement être authentique et honnête devant Dieu. Donc, c'est pas heureux celui qui ne pêche pas, c'est heureux celui qui se sait pécheur, qui se le reconnaît, qui le reconnaît aux autres et à l'Éternel. Heureux celui-là. Refuser de pardonner, de demander pardon, c'est se condamner à bien des affaires. Puis, je réfléchis, qu'est-ce que ça produit, ça, dans nos vies, quand on refuse de demander pardon aux gens? Si c'est devenu d'habitude, on fait le vide autour de soi. De moins en moins d'amis. Et des fois, on dirait comme ça que... Tant qu'on avait des amis dans le temps, on est moins. Bon, il y a peut-être d'autres raisons, mais c'est peut-être cette raison-là. On a peut-être fait le vide. Inconsciemment, plus ou moins. C'est jamais tout à fait clair. C'est comme, on peut dire, ouais, mais j'ai pas violé personne, j'ai pas tué, j'ai pas battu. C'est pas si pire que ça. Pourquoi, d'abord, si les gens n'ont pas l'air à rechercher ma compagnie comme jadis ils le faisaient? Un des effets que j'ai remarqué chez les gens qui ont de la difficulté, c'est préfèrent la solitude. On devient des asociaux. On est vraiment bien tout seul avec soi-même parce que là, on se dit « Ah, il n'y a pas de problème quand je suis tout seul avec moi-même. » Ce qui semble être une forme de protection, mais au fond, qui cache peut-être que j'agresse des gens, je reçois de l'agression, c'est compliqué, je reste chez nous. Et on rentre dans un modèle où c'est les gens qui sont des agresseurs, hein? C'est les autres, les pas fins. C'est pour ça que moi, je suis bien avec moi-même. Moi, je m'agresse pas, au moins. C'est... Moi, puis ma TV, ou moi, puis mon ordi, moi, puis moi, là, tu sais, on est tellement bien ensemble, mais c'est un méchant problème quand vous y pensez. Mais est-ce que ça vaudrait pas la peine de se dire, OK, pourquoi je cherche, je suis plus bien dans la compagnie des hommes? Tu sais quoi qui se passe? Tu sais, le psaume 133, qu'est-ce qu'il dit? Il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est supposé d'être bon, ça. Pourquoi ça devient plus bon, à un moment donné? Tu sais, comment on explique que des gens qui semblent être sympathiques, que tout le monde semble aimer, puis tu dis, pourquoi moi j'ai un conflit avec lui? Bon, c'est lui qui est pas fin, je connais son dossier, c'est pour ça, 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 puis ça. Mais moi, à un moment donné, je me dis, ouais, mais attends une minute, ces gens-là, ils ont plein d'amis, ils ont l'air d'être super agréables. Pourquoi c'est entre moi puis lui, là? C'est peut-être pas lui, c'est peut-être moi, finalement, qui a créé la distance. Et peut-être que cette distance-là, je l'ai créée avec plein de gens, puis je me vois seul. Je juge que le monde est mauvais. J'ai entendu ça souvent. Ah, c'est tout le monde. C'est la bêtise humaine. On voit la bêtise chez tous les autres. J'aime ça faire un petit exercice. On va le faire ce matin. Je n'avais pas prévu. Si vous regardez la tête droite et que vous regardez les gens, vous vous dites, ils sont droits. Mais penchez la tête. Et tout à coup, quand vous penchez la tête, tout le monde est croche. C'est simple, hein? C'est niaiseux. Mais c'est facile de voir que c'est tout le monde qui est croche et tordu. Et ça, on voit ça seulement quand c'est soi-même qui est tordu, au fond. Parce que quand on se remet le visage droit, on se dit « OK, pas si pire que ça, les gens. » On devient extrêmement suspicieux. On suspecte le mal. Le problème de l'incapacité à demander pardon, ça endurcit. Ça n'a pas des effets pareils sur tout le monde, mais il y a des gens qui s'endurcissent. Ils deviennent méchants. Vigoureusement méchants. D'autres se victimisent plutôt. Tu sais, c'est tout le monde est contre eux, tout le monde complote. Moi, j'ai rien fait à personne. Je sais pas pourquoi les gens sont comme ça avec moi. Il doit y avoir quelque chose. Ça doit être Satan, c'est pas. Mais on se victimise. certains tombent dans l'amertume, pas loin de la victimisation. Pour certains, ça se dégage en colère, en violence, en rébellion aussi. C'est toutes sortes de façons qu'on a d'extérioriser. Peut-être le seul fait qu'on n'ait pas été réparé une faute ou des fautes et qu'avec le temps, on s'est endurci, puis on accumule, puis ça finit par affecter ma santé psychique, physique, de toutes les façons possibles. Vous savez, j'écoutais un prédicateur américain que je vous nommerai pas. Mais en ce moment, il y en a une couple comme ça. Il y a des gens qui vont exploiter cette corde sensible du rejet chez les chrétiens, qui vont dire « les églises sont méchantes, hein? les églises ne sont pas occupées de vous. Là. Ça, c'est on appelle ça le syndrome d'Absalom. Absalom a fait ça. Hein? Il dit, quand il s'est rebellé contre son père, il s'est assis à la porte et il a dit, « Moi, je vais traiter plus justement vos cas. » Il est mort, la face plantée d'un arbre. Le gars. Il semble que Dieu n'ait pas apprécié qu'il ait voulu réparer ce qu'il disait être des erreurs de son père, le roi. Mais bon, et j'écoutais cet homme-là qui est connu, puis lui, il fait de l'évangélisation, puis il dit, nous autres, on va vraiment refaire l'Église, puis on va relever ça, puis nous autres, on va vraiment amener le message. Tu sais, vous avez toujours des buzzés comme ça qui sortent, qui vont restaurer la vraie patente, là. Et là, il disait, c'est ça, il dit, moi, là, il dit, je sais que les églises ont blessé plein de gens, les pasteurs ont blessé plein de gens. Et le problème avec sa déclaration, c'est qu'elle est aussi vraie en partie. C'est vrai que ça arrive. Mais ces gens-là ramassent toutes les victimes. Mais parmi les victimes, sont-ils victimes du milieu ou est-ce qu'on n'est pas aussi parfois victime de notre propre nonchalance? Je vous donne un cas d'espèce qui je pense qu'il n'y a pas une église qui n'a pas vécu ça. Vous êtes comme, par exemple, on cherche la relève dans nos églises, fait qu'on identifie des jeunes prospects, futurs pasteurs, évangélistes, leaders, enseignants, bref, tout ça. Et à un moment donné, tu t'investis dans un de ceux-là et tu découvres qu'il ne l'a pas. Tu sais. Ça se peut. Il ne l'a pas. C'est pas son appel. Fait que tu lui dis, ben, non. Car je pense pas que Dieu t'appelle à ça. Ça peut se faire bien cool dans ton bureau, tu essaies d'expliquer. Mais le petit gars le prend pas, lui. Lui, là, il fantasme là-dessus. Alors, que font ces gens-là, en général? Ils quittent leur église, puis deviennent des anti-églises. Et là, ils vont récupérer tous ceux à qui c'est déjà arrivé. Et là, ils deviennent la cohorte des frustrés. Et là, ils se mettent à dire que l'Église, telle qu'elle existe, c'est pas la vraie Église du Nouveau Testament. Puis là, ils sortent tout un ameublement théologique complètement tordu. Probablement parce qu'ils ont juste pas accepté une situation qui les concernait. Et ça n'exclut pas que peut-être qu'une Église a maltraité des gens aussi. Je veux pas défendre, dire on agit tout le temps bien. Non, on se trompe souvent aussi. Mais voyez, c'est facile de victimiser et de rentrer dans cette dimension-là complètement. Je termine sur une dernière affaire et très, très intéressante. Moi, je m'intéresse à des revues. Vous savez, si vous êtes un scientifique, il y a toujours des revues qui sont publiées par des gens du milieu qui vous donnent un peu les dernières affaires découvertes. Donc, en médecine, il y en a. Il y en a dans plein de domaines. Mais il y en a pour les historiens puis les sociologues des revues de même. Ça s'appelle la revue Sciences humaines. Et il y a un type qui a publié quelque chose de très intéressant. C'est un Français, Régis Mérand, son nom, qui, lui, nous explique pourquoi on a un méchant problème de victimisation dans notre siècle. Alors, voici le topo. Il nous dit que pendant des siècles et des siècles, on ne s'est jamais occupé des victimes. Quand il y avait des guerres au Moyen Âge, là, on ne s'occupait pas des gens qui revenaient de la guerre ou des victimes de la guerre ou des victimes collatérales, l'épouse du gars, ses enfants, des femmes violées, toutes sortes d'affaires là, qui arrivaient. C'est toujours ça une guerre. C'est terrible ce que ça amène comme problème. Au-delà du champ de bataille, là, c'est terrible. Mais pendant des siècles, on ne s'en préoccupait pas de ça parce que on n'avait pas le temps. T'sais, après une guerre, là, tu retroussais tes manches, tu retournais à ta terre, puis tu faisais des enfants, puis tu continuais à te battre pour arriver à vivre au moins jusqu'à 40-45 ans. C'était l'espérance de vie. Ça, c'était les plus vieux qui se rendaient là. Fait que tu n'avais pas trop le temps de te plaindre. Et les victimes, ben, devaient se taire. Si une femme avait été violée, un enfant avait été violé, ou des trucs comme ça, là, il était dans les valeurs du temps de ne pas le dire. Parce que le dire, c'était vu comme de la lâcheté. Quand on regarde les autres époques, il faut toujours faire attention de ne pas les juger à partir de nos valeurs qu'on a en ce moment. Parce que nos valeurs, ils tiennent pour être crédibles seulement pendant qu'on est là. Parce que dans deux siècles, quand ils vont regarder ce qu'on croyait aujourd'hui, ils vont dire qu'il était vraiment bizarre, les gens du 21e siècle. Donc, en histoire, on s'efforce toujours de dire, OK, comprenons un siècle pour lui-même, puis comprenons que les gens ont agi noblement selon les valeurs qui étaient les leurs. Donc, dans ces siècles-là, une victime était noble si elle arrivait à garder pour elle son malheur. Et si une jeune fille avait été violée par un mononcle, elle ne le disait pas. Puis si elle le disait à ses parents, on gardait ça secret. Nous, on trouve que c'est de la lâcheté. Et ça en est. Ça en est dans les valeurs d'aujourd'hui. Mais à l'époque, ça aurait été le contraire. Parce que si la jeune fille l'avait dit, ça détruisait sa famille, ça cassait tout. Puis là, c'était comme un pire malheur. Fait que, comprenez? Donc, je suis pas en train de dire, c'était-tu bien, c'était-tu mieux? C'est pas ça qu'on dit. On dit, voici ce qu'il croyait. C'est juste ça que je suis en train de dire. Et voici ce qu'on croit, nous, aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, il y a eu un shift, il y a eu un virage, à un moment donné, très important. Et il s'est produit dans le 20e siècle. L'arrivée de Freud, de la psychanalyse, de la réflexion, c'est mis à s'intéresser aux victimes, tout à coup. Excellente chose. On s'est mis à dire, il y a des gens qui souffrent, là, qui sont des victimes. On s'est mis tellement à s'intéresser aux victimes qu'il dit, on a créé, et là, je vais vous lire son court texte, il dit, on a créé un univers de victimes aujourd'hui où on s'attarde beaucoup aux victimes et pour cause, on doit le faire, mais on ne traite pas beaucoup la question de l'agresseur, on le traite mal, on passe ça vite. Où on trouve des boucs émissaires politiques, des personnalités publiques, puis quand on peut en trouver un, puis varger dessus, là, pauvre lui. Donc, il relatait l'histoire d'un professeur en France qui avait été accusé d'agression sexuelle dans son école par des jeunes filles. Et le gars a perdu sa job, il a perdu sa femme, il a perdu ses amis, il a perdu son emploi, il a tout perdu jusqu'à ce qu'il y ait une enquête qui est faite. Pour découvrir quelques années plus tard que le gars avait absolument rien fait. C'était un coup monté des jeunes filles qui n'aimaient pas ce prof. Il dit, OK, on est passé d'un monde qui ne se préoccupait pas des victimes à un monde qui s'en préoccupe de telle sorte qu'aujourd'hui, on se considère tous comme des victimes. Donc, je reviens à l'idée au début. On se voit beaucoup comme des victimes à qui on devrait, et nous, comme victimes, on devrait pardonner aux agresseurs. L'agresseur, c'est toujours l'autre. On se voit pas comme des agresseurs. On n'est plus dans cet univers-là. Donc, il va dire ceci. Nous avons subtilement versé dans un univers où l'idéologie désormais établie considère que, quelle que soit sa cause, l'agresseur ment et la victime dit toujours la vérité. Celle-ci, la victime, a donc naturellement tous les droits. Mais l'on peut aller plus loin dans la dénonciation d'une litanie victimaire. Le sociologue Guillaume Herner dénonce, dans un livre qui s'appelle « La société des victimes », qu'il existe maintenant un nouvel ordre moral et qui confère à la victime un statut sacré, puisqu'il est un peu comme une version laïcisée des martyrs. Bon, il dit « La victime, en prenant la parole publiquement, pour dire sa souffrance, susciterait la compassion d'autrui, ce qui lui permettrait d'être reconnu. La frontière morale aurait donc bougé en moins d'un siècle. Si avant on était respecté parce qu'on se taisait ou on taisait sa souffrance, aujourd'hui nous sommes respectés et reconnus parce qu'on l'a dit. » Donc la question ici, c'est pas de savoir est-ce qu'on fait mieux, est-ce qu'on fait pire, est-ce que ces gens-là faisaient mieux ou est-ce qu'ils faisaient pire? On est juste en train de dire que les deux guerres mondiales du 20e siècle ont changé la perspective et ça nous influence, nous les croyants. Donc, notre théologie du pardon est moins ce que la Bible en dit qu'on suit un mouvement social de victimisation beaucoup. Donc, comment on fait pour être juste avec les victimes? Et sans amener l'agresseur à devoir également reconnaître sa faute, parce que si lui le fait, ça va être heureux pour lui, nous dit l'Écriture, et ça va être heureux pour sa victime. Donc, permettez-moi de juste relire, pendant que Michel va venir, le psaume 32. « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Alors, Seigneur Jésus, ce matin, on veut te demander grâce pour nos fautes, Seigneur. Et également, Seigneur, nous conduire dans notre conscience à être sensible au mal qu'on fait. Peut-être être plus sensible à ça encore. J'aimerais qu'on prenne une minute de silence à peu près, une minute ce matin, et que chacun d'entre nous, on prenne le temps de juste penser. Je ne veux pas vous faire prendre un engagement d'aller voir quelqu'un, d'aller demander pardon. Je ne veux pas entrer dans ça, ça vous appartient. Mais juste prendre un temps, seul avec vous-même en ce moment, pour vous poser la question s'il n'y a pas des choses que vous devriez réparer, qui sont importantes. Seigneur, suivant ta parole, on comprend une chose ce matin, c'est que reconnaître notre faute, c'est quelque chose d'heureux. D'heureux pour la personne, mais d'heureux pour soi-même aussi. Et toi aussi, ça te bénit, Seigneur. Ça te bénit, Seigneur, quand on le fait. Merci, Père. Amen.